Mais est-ce que vraiment les pasteurs ont les mêmes combats, les mêmes défis que nous? Et en fait, on va commencer en lisant dans je ne vous dis pas tout de suite le sujet, dans Jean 20, à côté du verset 24, ça dit, Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-le dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ici, notre réflexe souvent lorsqu'on lit ce texte-là, et même si vous avez pas, vous êtes un peu étranger avec la Bible, c'est un texte qu'on connaît tous, l'histoire de Thomas. Et Thomas est comme étiqueté comme le gars qui doute, le gars qui manque de foi, le gars qu'il faut qu'il touche pour croire. Pauvre gars, pauvre Thomas! La première fois où Jésus a parlé aux disciples, lui, il n'était pas là. Je ne sais pas si c'était un dimanche soir, puis il avait occupation double, il était occupé à regarder ça. Des fois, il y a des priorités dans la vie. Et là, Jésus est apparu, et là, les disciples s'empressent de dire à Thomas, hey, « on a vu Jésus! » Puis là, on se dit, « Ben oui, ben c'est normal, mais mettez-vous juste en contexte un instant. Jésus est mort. » Après ça, il se passe quoi? On n'est pas trop sûr. Les disciples sont complètement déstabilisés. En principe, il est mort, il est enterré. Ben, Jésus, c'est terminé, là. Vous avez dit, Jésus, êtes-vous sûr d'avoir vu Jésus? C'est-tu un prank? Est-ce qu'on est le 1er avril? Il dit, ben, moi, je vais croire quand je vais le voir, quand je vais toucher. Et étonnamment, quand Jésus se repointe et que tous les disciples sont là, et que là, cette fois-là, Thomas est là. Étonnamment, Jésus n'arrive pas, puis il sait d'avance, parce que là, quand il voit Thomas, il dit « Approche-toi et touche ». Thomas n'a même pas dit un mot, il n'a pas dit « Hey ». Il a dit, tout de suite, il savait que Thomas avait douté. Et il dit « Approche-toi ». Il n'a pas dit « Toi, là, mon espèce, tu n'as pas cru, hein? Tu n'es plus digne d'être mon disciple. » Il y en a un qui s'est enlevé la vie, on est passé de 12 à 11, maintenant c'est les 10. Puis bientôt, ça finit, ça va être les 3 mousquetaires, ça continue. Mais il l'a pas rébuqué, il l'a pas dit, je veux plus te voir, t'es juste un incrédule, t'es un pas bon, tu manques de foi, comment est-ce que je vais pouvoir bâtir mon église avec toi? Il dit non, il dit touche, il dit mets ton doigt. Maintenant, tu crois parce que tu as touché, mais heureux ceux qui n'auront pas besoin de toucher pour croire. Et des fois, on pense que le doute et la foi, c'est deux choses complètement différentes. Barnabas Piper dit, le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais c'est un élément de la foi. Parce qu'en fait, le doute et la foi, ils n'ont pas le choix d'aller ensemble. Et souvent, quand on parle du doute dans l'Église, c'est comme, moi, quand je suis arrivé au Seigneur, c'est comme, écoute, là, tu crois, puis tu crois. Là. Si tu crois, tu crois. Il n'y a pas une question, tu n'as pas de question. Tu crois ou tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu choisis?
Je crois.
Et là, c'est comme si ce mot-là, le doute, les questions, c'est quelque chose de tabou. Mais en fait, si Dieu avait voulu qu'il n'y ait pas de doute, qu'est-ce qu'il aurait fait? À la naissance, là, à l'intérieur de nous, il aurait installé cette application qui s'appelle la foi. Téléchargée maintenant. Et ce serait inné. On est avec la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. On est croyant, puis on fait comme Jésus. Toujours. All the way. Il n'y a pas une question, il n'y a même pas quelqu'un qui va oser poser une question. Est-ce que? Non. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est d'emblée, c'est cané. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, il a fait de nous des êtres humains avec des choix, la possibilité de désobéir, la possibilité de faire 10 millions d'affaires et de choisir par nous-mêmes, pas toujours la bonne affaire. Et à travers ça, bien, c'est justement le doute est là. Et parce qu'il y a du doute, le doute est le premier pas vers la foi, en fait. Le doute est le premier pas vers la foi. Dans Job 42, les versets 1 à 6, c'est vers la fin du livre de Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job où cet homme-là, qui était pieux, qui aimait Dieu, qui avait sa famille, l'entreprise, ça dit que c'était un homme qui était prospère. Et du jour au lendemain, il a tout perdu, tout perdu. Il s'est retrouvé en bon Québécois. Si vous n'êtes pas Québécois, je vous apprends une expression ce matin, tout nu dans la rue. On dit ça ici. Pas sûr que c'est bon, mais c'est ce qu'on dit. Il s'est retrouvé avec plus rien. Et tout le long de ce périple-là, de cette aventure-là, il y a des bons. On a tout le temps des bons amis, hein? Ils sont là pour nous épauler, nous donner des bons conseils. Il y en a une de perdue, 10 de retrouver. Et tout d'un coup, c'est parce que tu as un péché dans ta vie, tu as une faute, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si ça t'arrive tout ça, c'est parce que ça ne va pas. Ça ne va pas avec toi. C'est toi le problème. Au final, c'est toi le problème. Et Job avait ces bons amis-là. Et pendant tout ce moment-là, il y a ces questionnements-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? À la fin au début du chapitre 42, ça dit, « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » À la fin de tout ça, Job, à travers ce périple où il aurait pu dire justement, le doute a gagné sur moi. Seigneur, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu veux dans laquelle... Moi j'étais... Il n'y en avait pas de problème. Ma vie allait bien. Je t'aimais. Et là, tout d'un coup, je me retrouve dans cette situation-là. Et là le doute vient. Mes amis, en plus, m'aident à douter, à me questionner, à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais à la fin, Job va dire, je ne comprends pas tout. Mais il dit, maintenant, je sais qu'au-dessus de tout ça, j'avais entendu parler de toi. Ma foi est à une place. Mais cette situation-là m'a amené à avoir une confiance encore plus grande en toi. À vraiment voir que tu prends soin de moi dans les moindres détails, même quand je pense que tout est terminé, tu es encore là. Encore une fois, M. Piper dit, « Vous savez ce que le livre de Job ne fait pas, il n'explique rien. » Et c'est vrai. À la fin du livre de Job, il n'y a pas d'explication logique pour la situation de Job. Mais même sans explication ou fait rationnel, il répond à nos questions, à savoir que Dieu est Dieu. Nous ne le sommes pas, donc demeurons en silence. On n'est pas Dieu, mais Dieu est Dieu. Dieu est en contrôle de tout, même quand on ne le voit pas. Quand on ne saisit pas tout. Parce qu'en fait, c'est là la situation. C'est quand on se retrouve dans des moments où, est-ce que Dieu est encore avec moi? Vous savez, dans ma vie, quand j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai invité à venir dans ma vie, il n'y a pas un moment où j'ai douté de l'existence de Dieu. Là, ça vous rassure. Là, c'est le bout où vous dites, le pasteur le doute un matin. Wow, on n'est pas à la bonne place, c'est sûr. Et je n'ai pas remis ça, ça n'a jamais été en compte pour moi. De savoir que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il m'a racheté, c'est seulement par grâce que je peux avoir accès à l'éternité. C'est cané pour moi, ce n'est pas une question. Mais une question pour moi, c'est quand il arrive quelque chose dans ma vie que je ne comprends pas. Quand tu te lèves les yeux, tu regardes autour d'autres croyants que tu connais, puis tu dis, me semble, puis même des gens, même des fois, qui ne sont pas croyants, puis tu dis, me semble que sa vie, me semble, pourquoi que lui a ça, pourquoi que lui fait ça, pourquoi que lui réussit, pourquoi que si, pourquoi que ça, et pourquoi que moi, présentement, je me retrouve dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous vous posez ces questions-là, mais des fois, les questions et le doute viennent. Pas de savoir si Dieu est Dieu, pas savoir si Dieu existe, pas savoir si Jésus est mort sur la croix pour moi, pas savoir s'il y a une éternité, tout ça c'est correct, mais de savoir des fois c'est comme, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné dans ma situation? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as laissé seul? On dirait que oui. Et c'est là le doute qui peut venir, et les questions et les réflexions. Dans Jacques 2, le verset 19, ça dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Wow! Et des fois, je pense que c'est là où notre foi jure un peu. C'est que des fois, les démons croient plus en Dieu que nous. Ouf, vous ne voulez pas l'entendre ce matin, celle-là, hein? Les démons, ce n'est pas une question pour eux autres. c'est sûr qu'ils existent. Puis quand ils entendent parler du nom de Dieu, ils tremblent, ils fondent dans leurs pantalons. Ils disent, oh non, pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui est Dieu, que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut tout, que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, que Dieu est partout. Puis ils font comme, non, on est dans le trouble. Si Dieu se lève, on est dans le trouble, toute la gang. Mais le problème, c'est que nous, des fois, on croit beaucoup moins en Dieu que les démons eux-mêmes. Et c'est là où on se retrouve dans le doute, c'est là où on se retrouve dans les questions, les réflexions, parce que notre grand Dieu, tout d'un coup, avec nos situations, on dirait qu'il diminue. On dirait qu'il rapetisse dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Et c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas le doute. Le doute est quelque chose de normal dans la vie, comme on l'a dit, c'est la première étape de la foi, c'est le doute. Première étape de la foi, c'est de questionner, c'est de réfléchir. Le problème est que quand le doute prend le dessus sur ma vie, quand je questionne la question du re-questionnement de la question, c'est là le problème. Parce que là, je laisse tout ça, je laisse le doute, je laisse les questions, je laisse les réflexions prendre le dessus sur moi, prendre le dessus sur ma foi. Et c'est là le problème. Vous savez, il y a à peu près 16 ans de cela, j'ai vécu une crise de foi. Ce n'est pas le foie qui est ici, là. À quelque part là. J'ai vécu une crise de foi. J'étais pasteur. Et là, j'ai commencé, pas encore une fois, pas à questionner que Dieu est Dieu. Mais par rapport à ma façon de vivre ma foi dans le quotidien, ma façon de vivre ma foi ou de pratiquer l'Église, de faire le ministère, j'ai dit, oh, c'est quoi la prochaine étape pour ma vie, Seigneur? Et je me suis retrouvé dans ce moment-là où j'ai dit, tout ce qu'on m'a donné comme information, quand je suis venu comme étant croyant, puis on m'a dit, ça, Dieu dit ci, Dieu dit ça, Dieu dit de faire ci, de faire ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, oui, 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 parce qu'on t'a dit, au départ, tu as deux choix, tu crois ou tu ne crois pas. Le doute n'existe pas. Fait qu'après ça, le reste, c'est oui et amen. Et à un moment donné, tu te retrouves, puis je me suis retrouvé dans cette période-là de doute et de questionnement, à savoir est-ce que je fais la bonne affaire de la bonne façon? Est-ce que tout est vraiment correct? Et quand on a ces questions-là, pour moi, il y a une solution pour avoir nos réponses. La Bible. Révélation. T'es allé chercher ça loin, mon jeune homme. La Bible. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK. On va retourner au départ. C'est comme j'ai décidé de peser sur un bouton « reset » pour ma foi. Et simplement, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bien, au final, ma vie devrait être basée sur la personne de Jésus. Puis là, je pense que je connais Jésus, mais j'ai l'impression que je manque des trucs ou que je fais des trucs qui ne sont pas nécessaires, que je m'attarde sur des détails que Dieu ne s'attarde pas, puis il y a des trucs qui sont importants que je ne fais pas, mais pour Dieu, c'est plus important. Et ce que j'ai fait, simplement, j'ai commencé à relire les évangiles, un après l'autre. Matthieu, Marc, Luc, Jean, j'ai passé à travers les évangiles en portant une attention particulière à la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il ne disait pas? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Comment il interagissait avec les gens? Et honnêtement, je l'ai eu dans les dents solides. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de fluff-là, de trucs, qu'en fait, c'était ni mal ni bien, mais c'était pas nécessaire. Et qu'il y a des affaires que même peut-être que c'était pas bien de faire, puis, ou de mettre une attention particulière sur quelque chose. Et j'ai décidé de juste dire, OK, revenons à la personne de Jésus. Et comment est-ce que je peux m'attacher davantage plus à Jésus, que je peux ressembler davantage à Jésus, que je peux, dans mes relations, dans ma vie de tous les jours, dans ma façon de faire l'Église, dans ma façon de prêcher, d'être plus proche de Jésus. Et honnêtement, ça a changé ma vie. Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que j'ai un diplôme de maintenant Jésus numéro 205? Non. Je suis toujours en processus, mais pour moi, c'est quelque chose de toujours revenir à l'Évangile et à la personne de Jésus. Et c'est là où le doute s'élimine. Parce que quand tu viens à la personne de Jésus, il n'y a pas de demi-mesure, c'est comme ça. C'est aussi simple, c'est clair. En fait, l'Évangile est rempli de joie, de simplicité et de passion. Je me serais attendu un petit peu plus d'enthousiasme, c'était un bon bout, là. 2 Corinthiens 10, 5. Et c'est là où, parce qu'en fait, le doute, les questions, les réflexions et notre foi, oui, c'est notre cœur. Jésus va dire que si tu es comme un enfant, c'est là où tu vas pouvoir, la foi d'un enfant aussi simple d'un enfant, tu vas pouvoir accéder au ciel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais en fait, c'est là où le problème du jour, ce n'est pas nécessairement dans notre cœur, c'est quand ça se rend là, dans notre tête. Et là, on doute. Et là, on questionne. Et là, quand on laisse le doute, pas juste être un doute qui nous ramène à la foi, mais quand ça devient un doute qui prend le dessus sur notre foi. C'est à ce moment-là que ça ne va plus du tout. Et c'est pour ça qu'entre autres, l'apôtre Paul va parler à Timothée, ce passage-là qui pour moi reste un passage tellement important, qui va dire à Timothée, il y en a qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Pourquoi? À cause de ça. Ils n'ont pas gagné le combat dans leur pensée. Ils ont laissé les doutes, ils ont laissé le scepticisme, ils ont laissé de pas simplement être là pour re-questionner, pour aller à Dieu, pour s'approcher davantage de Jésus et avoir cette réponse-là, cette foi-là, cette confiance-là en Dieu. Mais ils ont laissé ça prendre le dessus. Et c'est ça qui fait qu'on s'éloigne. Parce qu'il dit, ici, l'apôtre Paul, il dit, on renverse les raisonnements et les obstacles qui, quoi, s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et on fait toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'en fait, la foi, simplement, c'est quoi? Ce n'est pas une science de comprendre le futur et de savoir à l'avance ce qui va se passer dans ma vie dans 10 ans et comment Dieu va agir dans 10 ans dans ma vie jusqu'à maintenant. C'est simplement d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Stephen Mansfield a dit, « Tu n'es pas maudit, tu es seulement blessé. Ne laisse pas un mensonge te garder d'être ce pour quoi tu as été créé. » Parce que souvent, quand on arrive dans le doute, c'est quoi, comme je le disais tout à l'heure, quand on arrive dans une situation dans notre vie où on est placé, et là, on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. On doute de l'action de Dieu dans notre vie. On doute du support de Dieu dans notre vie. Et au final, comment ça remonte? Il y a toujours le même filon. Là, on se pose des questions. Pourquoi c'est arrivé? Comment ça? Et au bout de la ligne, on n'a pas nos réponses souvent et on remonte à « le problème, c'est moi ». Qu'est-ce que j'ai fait de mal que Dieu ne me pardonne pas? Et combien de fois je l'ai entendu? Il y a des gens même au téléphone, des gens qui étaient à l'hôpital puis que je ne connaissais pas, il y en a plein dans l'église, puis ils disent « Écoutez, je pense que je vais aller en enfer. » Je dis « Wow, c'est gros. J'aimerais savoir pourquoi. » Ben en fait, parce que là, j'ai plus l'assurance que Dieu m'aime. Je dis « OK, qu'est-ce que vous avez fait? » Et souvent, ce n'est pas des grosses affaires de banalité. Puis je dis « OK, mais la Bible dit que tu confesses tes péchés à Dieu, puis Dieu est capable de te les pardonner. Est-ce que vous avez confessé vos péchés à Dieu? Est-ce que vous avez demandé pardon sincèrement? Oui. Mais il est où le problème? La grâce de Dieu est encore accessible pour toi. Mais il y a des gens qui reviennent, puis c'est exactement ça. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas une malédiction sur ta vie parce qu'il t'arrive quelque chose. Parce que la Bible dit qu'il pleut sur les justes et les injustes. Et tu sais, seulement, des fois, on est seulement blessé par la situation ou par les gens. Mais on remonte à nous et on fait comme, OK, Dieu n'est plus avec moi parce que j'ai fait ceci ou je n'ai pas fait cela. Et ça, c'est un mensonge qui est dans nos pensées. Et si on ne gagne pas le combat qui est dans nos pensées, bien, le doute va prendre le dessus. Le scepticisme va prendre le dessus. Et Dieu ne sera plus Dieu dans nos vies. Et on va laisser le mensonge nous éloigner de Dieu et nous éloigner de ce pourquoi on a été créé. Le Proverbe 4:23 dit, « Avant tout, prends garde, c'est la parole parole français courant, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » La traduction seconde dit, va dire ceci, dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais j'aime cette autre perspective-là qui nous amène plus profondément en disant, « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Je pourrais dire, « Ta foi en dépend. » Le doute n'est pas mal. Mais si tu laisses le doute devenir ton maître, c'est là que ça ne va plus. Parce que c'est là où Dieu n'existera plus dans ta vie. C'est là où tu vas arriver au final, où ce ne sera plus juste un doute de « Est-ce que Dieu est encore avec moi? Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation-là? » Ça va finir en « Dieu n'existe plus. » Ça, c'est le chemin de la société. La société arrive dans un point où elle dit « Au fond de moi-même, j'ai laissé le doute et le scepticisme être mon maître. Dieu n'existe plus. » prends garde à ce que tu laisses tes pensées prendre le dessus. Quand les pensées viennent, d'être capable de venir et de dire, OK, je vais retourner. Je vais retourner là où c'est solide. Je vais retourner pour reconstruire ma foi, pour avoir l'assurance. Je vais m'approcher de Jésus pour être sûr que Dieu, tu es là, puis tu ne m'abandonnes pas, tu m'aimes encore. Adam McHugh dit, lorsque Dieu ne répond pas à nos requêtes de prière spécifiques, ça peut être une indication qu'il travaille sur quelque chose de différent en nous, comme la confiance, la dépendance, l'humilité, la patience, la sagesse, même l'intimité avec lui. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Job. Job est arrivé dans ce moment-là où il n'a rien fait de mal. Pauvre gars! Il n'a rien fait de mal, puis il se retrouve à la rue totale, plus rien, plus de compréhension. Et ça aurait été le premier. Combien d'entre nous auraient pu dire, bien, si ça se passe comme ça, Seigneur, bien justement, je t'enlève de ma vie parce que je ne crois pas que tu existes. Et c'est là où le doute prend le dessus. Mais des fois, comme Job, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est un pèlerinage pour dire, Dieu, tu es encore à quelque part dans ma vie, mais je ne te sens plus comme avant. On dirait que tu m'as laissé tomber et c'est une quête de revenir à dire, je veux m'approcher de toi, Seigneur, parce que j'ai peut-être manqué un épisode, j'ai peut-être manqué quelque chose et j'ai besoin de rebâtir ma confiance et ma foi en toi. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Simplement, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5-7, nous exhorte, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et souvent dans nos vies, on marche par la vue. Peu importe, ça fait combien de temps qu'on est croyant et on se retrouve dans des situations où ça ne marche pas comme on veut. Ça ne fonctionne pas de la façon qu'on a. Notre plan, il foire total. Puis on se dit, mais il me semble que j'avais prié, il me semble que c'était la direction de Dieu, il me semble que. Puis là, je me retrouve dans cette impasse-là. Comment ça? Come on! L'apôtre Paul, il dit, c'est pas par la vue, c'est pas par ce que tu vois, c'est pas par ce que tu ressens. On marche par la foi. Et la marche par la foi, qu'est-ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 10, 5? Ça dit qu'on rend toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que la marche par la foi, c'est une marche par l'obéissance. Et c'est assez saisissant que Jésus va dire lui-même, il dit, en fait, tout ce que tu as besoin comme foi, il dit, c'est un grain de moutarde. Ici, j'ai un pot de moutarde que je le laisse sur mon bureau. Il est toujours dans mon visage. Quand je travaille, j'ai toujours un pot de grains de moutarde devant moi. Quand ça ne va pas, je regarde et je dis, OK, il y a beaucoup de foi dans ce pot-là. J'en manque peut-être, mais là, il y en a sur un moyen temps là-dedans. Mais c'est assez saisissant que Jésus va dire, c'est tout ce que tu as besoin de foi. Tu as juste besoin de ça, de foi dans ta vie, et c'est suffisant pour moi. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas toi qui es tout puissant. Ce n'est pas toi qui sais tout, qui connais tout. C'est moi. Fait que si tu fais juste dire, je crois en toi, et c'est tout ce que je peux t'apporter comme foi, Seigneur, je crois en toi. Ben c'est suffisant, moi je le reçois, et moi j'ai la capacité de le faire. Je ne te demande plus rien. Ce n'est plus à toi de gérer. Ce n'est plus à toi de le faire. Et ce grain-là est suffisant pour faire l'impossible dans ta vie. Wow! Et ce matin, tu n'es pas convaincu et tu es comme un peu, peut-être choqué de, hey, le doute. Non, il n'y a pas de doute. Si je crois en Dieu, je crois en Dieu, puis ça s'arrête là. On ne peut pas parler de doute dans l'Église. Ce n'est pas un sujet. Ou peut-être que tu te dis, moi j'ai des questions, j'ai des doutes, puis j'ai l'impression que si je pose mes questions à Dieu, si j'ai l'impression de montrer du doute, bien il va te détourner le regard, puis il va faire comme, wow, qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux pas me retrouver comme Thomas. Moi, je ne suis pas un Thomas. Et peut-être que tu sens même présentement la situation dans laquelle tu vis, tu sens abandonné un peu par Dieu, tu sens délaissé, puis tu sens que Dieu ne te comprend pas. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive que j'ai l'impression que Dieu, est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Sérieux? On dirait que tu ne m'écoutes pas. Tu en écoutes d'autres, mais moi, tu ne m'écoutes pas. Puis regarde, j'ai pas juste un grain de moutarde, j'ai un pot au complet, là. Tu devrais m'écouter. Mais si vous devez retenir un passage ce matin qui peut changer votre vie et votre façon de voir, c'est ce passage-là. Jésus sur la croix, dans quelques instants, il va mourir. Matthieu 27, 6, 46 dit, « Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »
Wow! Wow!
Jésus sur la croix s'est écrié à son Père lorsqu'il a senti le poids du péché de l'humanité sur lui et le regard de Dieu se détourner parce que tous nos péchés étaient sur sa vie. Et Dieu était capable de regarder clairement qu'il y avait de fautes et d'abominations. Il a dit, non, je ne peux plus regarder. Et Jésus s'est senti seul, abandonné de son Père. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Si Jésus s'est retrouvé dans ce questionnement-là et de ce doute-là, je pense que le doute est valable dans nos vies. Vrai? Je ne vais pas me sentir mal. Mais est-ce que le doute a eu raison de Jésus? La réponse, c'est non. Parce que est-ce qu'à ce moment-là, il aurait pu se décrocher de la croix et dire, « OK, non, oh, oh, c'est terminé. Moi, je n'y vais plus, là. » Tout d'un coup que Dieu ne me ressuscite pas le troisième jour, c'est terminé. Ben, j'ai tout fait ça pour ça. Il aurait pu se décrocher. Mais le doute n'a pas eu raison. Le questionnement n'a pas eu raison de Jésus. Il est resté là, il est mort pour vous et pour moi. Et c'est la fondation de notre foi. Et c'est la raison pour laquelle je sais que Dieu est avec moi. Je termine avec ceci. M. Piper a dit, « Être en relation avec Dieu nous permet de voir qu'il ne nous laissera pas tomber ou qu'il ne nous arnaquera pas. » Ce n'est pas un arnaqueur. Ce n'est pas un vendeur de chars. Pas un vendeur de frigidaire ou peu importe de vendeur de quoi qui t'a pas dit toute la vérité. Parce que Dieu lui-même l'a vécu. Jésus lui-même a vécu ce que tu vis aujourd'hui. Mais de réquestionner, pour finir par jamais à trouver une réponse, de douter pour arriver puis laisser le doute gagner ma vie, ça c'est non. Et Jésus ne l'a pas fait. Et quand c'est venu, par contre, il est demeuré attaché à Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Même dans les situations les plus sombres de notre vie, de savoir que je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas où, j'ai des doutes de voir est-ce que Dieu va finir par intervenir dans cette situation-là dans ma vie? Il me semble que ça fait longtemps que je prie pour ça puis ça n'arrive pas. Mais laisse pas le doute arriver au point de te dire « Dieu n'existe plus ». Passons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Peut-être ce matin, tu te trouves ici, tu te trouves dans une situation où tu doutes de Dieu. Ou peut-être même que tu viens ici depuis un certain temps, ou c'est peut-être la première fois, et en fait, tu doutes de Dieu tout court. Parce que Dieu existe. Tu le recherches, tu recherches à gauche, à droite, mais tu doutes de Dieu. Ce matin, c'est aussi simple que de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Aussi simple que ça. De dire, à partir de maintenant, je veux marcher par la foi avec toi. Je veux te faire confiance, Seigneur, pas après pas. Commencer là où je suis. J'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de questions, mais je suis prêt, Seigneur, à te laisser une chance et à te faire confiance. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas parfait. J'ai commis des fautes, des péchés, mais ce matin, je veux juste te demander pardon puis je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Peu importe où tu te trouves ce matin, fais juste confesser cela. Fais juste l'inviter à venir dans ta vie et il va venir. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Viens au secours de notre doute. Viens au secours de nos réflexions, Seigneur. Et sois la fondation, Jésus, de notre vie. Sois la fondation de notre foi, Seigneur. Au final, Seigneur, c'est pas nos amis, c'est pas nos familles qui peuvent venir ultimement notre secours, mais c'est seulement toi, Jésus. Et c'est de toi qu'on a besoin ce matin. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant. C'est peut-être le moment juste de dire, Seigneur, viens au secours de mes doutes et de mes questions ce matin.